Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
C'est l'histoire d'un roi païen qui répondait au nom de Myrian. Un jour, Myrian rencontre sur sa route Nino, une jeune femme aussi charitable que belle. De religion chrétienne, Nino convertit le jeune roi, qui devient alors le premier souverain chrétien de son royaume, le royaume du Kartli. Toute cette histoire n'est pas une fable, ce territoire a réellement existé. Situé dans la Géorgie actuelle, en plein cœur du Caucase, le Kartli fut l'une des premières régions à se convertir au christianisme. L'histoire de cette conversion est racontée dans une chronique, sobrement intitulée « La conversion du Kartli », une chronique sur laquelle l'orientaliste Jean-Pierre Mey s'est penché durant des années. Jean-Pierre Mey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, spécialiste du Caucase et plus particulièrement de l'histoire et des civilisations de l'Arménie et de la Géorgie. Vous êtes donc la personne tout indiquée pour nous raconter l'histoire de cette conversion du Kartli et nous expliquer toute l'originalité de la chronique qui la raconte. Mais d'abord, pour commencer, je vous propose de recadrer un petit peu le sujet dans la grande histoire. Nous sommes au IVe siècle, c'est le temps des premières conversions chrétiennes de l'histoire. L'Arménie sera le premier pays d'Orient à se convertir au christianisme, suivi de près par la Géorgie, que l'on n'appelle pas encore comme cela à l'époque.
Oui, en effet, la Géorgie, à l'époque, n'est pas un État encore unifié comme elle est aujourd'hui, Saakartvelo. Il y a la province orientale qui s'appelle Kartli, et les Grecs disent Ibérie, comme l'Ibérie d'Espagne. Et puis, il y a également la province occidentale qui s'appelle la Colchide. Donc, on ne parle pas encore de Géorgie, mais de Kartli. C'est le Kartli qui devient chrétien en premier lieu.
Et donc, nous sommes dans la deuxième phase de christianisation après Constantin, c'est bien ça ?
Après Constantin. C'est-à-dire qu'au départ, le christianisme se diffuse un petit peu, hein, même très largement, grâce à la diaspora juive. Parce qu'il y a déjà à cette époque, depuis plus encore après la destruction du temple en 70, des juifs tout autour de la Méditerranée. Et les apôtres, qui sont eux-mêmes des juifs, vont d'abord voir leurs coreligionnaires pour les persuader de se convertir. Mais bientôt, évidemment, des païens rejoignent leur rang. Alors ça, c'est le christianisme primitif, on peut dire, qui va jusqu'à la fin du IIe siècle, ou même du IIIe siècle. IIIe siècle, il commence à sortir un petit peu des catacombes et à coloniser les genres littéraires grecs. Mais au IVe siècle, se produit un accident ou un événement tout à fait décisif, c'est la conversion de l'empereur Constantin. Donc à partir de ce moment-là, le christianisme va devenir quelque chose qui n'est plus judéo-chrétien, on peut dire, qui est largement du côté des non-juifs et qui peut avoir une diffusion dans toutes les limites de l'Empire. Mais vous savez qu'on s'est rendu compte à cette époque qu'en face de Rome, il y a un ennemi qui est absolument insurmontable, c'est l'Iran. Hein. Et donc on ne peut plus étendre les conquêtes romaines vers l'Orient. Et donc, quand Constantin apprend la conversion du Kartli, c'est-à-dire la Géorgie, il est plus heureux, nous dit-on, que s'il avait conquis deux ou trois provinces supplémentaires. Donc, parce que l'Empire reste fixe, mais le christianisme s'étend au-delà des frontières.
Le christianisme devient un phénomène mondial.
Est en train de devenir un phénomène mondial. Le coup d'arrêt, évidemment, ou le coup de la grande limite sera au 7e siècle, l'arrivée de l'islam. Mais au moment de la reconquête contre l'islam, eh bien, par exemple, quand on reconquiert l'Asie mineure, eh bien, de nouvelles chrétientés apparaissent. Par exemple, l'ancienne Russie, c'est-à-dire la chrétienté de la Russie de Kiev, n'est-ce pas ? La Moscovie n'existe pas encore.
Cette conversion jette les bases d'un modèle culturel dans cette région du monde. Et la conversion de la Géorgie, ou plutôt du Kartli, à cette époque, se fait sous le règne du roi Myrian, que j'évoquais dans l'introduction, qui devient le premier roi chrétien de ce territoire. Qui est-il et d'où vient-il exactement ?
Eh bien, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un roi d'origine iranienne et qui est au départ un zoroastrien convaincu. Hein. Son père, on connaît le nom de son père, il s'appelle Khosrev en géorgien, ça veut dire Khosrov ou Khosroès. Et normalement, il a une dévotion particulière pour Zoroastre. Il n'est pas tout à fait comme les Perses sassanides, parce qu'il admet aussi les idoles locales. Mais enfin, il est convaincu. Enfin, par hasard, il se trouve qu'il est entouré de femmes qui ont exactement un avis contraire et qui sont toutes chrétiennes.
Effectivement, ce roi Mirian ne va pas se convertir tout seul. Cette conversion a été initiée par une prédicatrice femme qui s'appelle Nino, Nino la captive. Alors expliquez-nous, Jean-Pierre Maillet, qui est cette femme et pourquoi l'appelle-t-on Nino la captive ?
Alors, le mot captive est probablement le seul mot historique dans cette appellation. C'est-à-dire que ça veut dire une prisonnière de guerre. Quelle guerre ? On ne sait pas. Probablement une guerre plutôt du côté de l'Iran que du côté de Rome, parce que si c'était du côté de Rome, on saurait exactement de quoi il s'agit et on ne voit vraiment pas de quoi il peut s'agir. Il s'agit d'un combat qui a eu lieu, disons, plutôt du côté de l'Inde que du côté de l'Empire romain. Alors, elle est prisonnière de guerre et elle a une particularité très importante pour la suite du récit, c'est que tout en parlant grec, elle ne sait pas encore le géorgien, mais tout en parlant grec, elle parle araméen aussi. Ça veut dire qu'elle vient d'une minorité, peut-être sémitique, pas forcément juive. Ça peut être des Syriens, une minorité sémitique qui parle araméen dans l'empire des Sassanides, c'est-à-dire des Perses. Mais le fait qu'elle parle araméen va lui permettre de nouer des contacts immédiats avec la communauté juive de Géorgie, qui est très ancienne, qui, à l'époque où elle se présente, c'est-à-dire au début du IVe siècle, est là depuis 500 ans. Hein, depuis plus de 500 ans, elle est arrivée au IIe siècle avant notre ère, hein, cette communauté, et elle reste très attachée à sa religion et répandue dans tout le royaume.
Alors cette femme, Nino, va convertir le roi autour de l'année 332.
Oui, on ne sait pas très bien l'année. On fixe 332 parce qu'il est question d'une éclipse de soleil. C'est-à-dire que le roi, qui refuse obstinément de se convertir, est tout à coup pris en plein midi, plongé dans l'obscurité. Il croit que c'est la fin du monde et il invoque le dieu de Nino et la lumière réapparaît. Donc on a supposé que c'était une éclipse de soleil et on se situe en 332. Hein, c'est très approximatif, mais enfin, c'est une possibilité.
Et c'est cet événement qui va provoquer sa conversion ?
C'est cet événement qui provoque sa conversion, mais il y a tout un passé derrière. Parce que je devrais vous dire que la mère de ce roi, qui s'appelait Abeshura, était peut-être chrétienne, déjà elle-même. En tout cas, son épouse, Nana, qui porte le nom d'une déesse mère d'Asie mineure, est devenue chrétienne, parce que Nino l'a guéri miraculeusement d'une maladie. Et ils ont un fils qui s'appelle Rêve, et l'épouse de ce fils s'appelle Salomé. Salomé, comme la présidente actuelle de la République de Géorgie, n'est-ce pas ? Et Salomé, c'est la fille du roi Tiridate, le premier roi chrétien d'Arménie. Et elle devient une adepte très active de Sainte Nino, donc elle a un très grand rôle dans la conversion du pays. En même temps que, on verra tout à l'heure, une autre femme de très forte personnalité qui est Sidonie, la fille du rabbin. Donc les femmes jouent un rôle très important dans la conversion du quartier.
Effectivement, vous avez cité donc Nana, Salomé, Nino. Donc Nino qui a eu un rôle très important dans cette conversion, mais ce n'est pas la seule femme à avoir tenu un rôle de premier plan dans cette conversion chrétienne. Pourquoi on peut dire qu'elle féminise le message chrétien, toutes ces femmes ?
Alors, on ne sait pas très bien. D'abord, parce que peut-être parlons un tout petit peu du mot Nino. C'est sûrement pas un vrai nom propre. Parce que les récits les plus anciens de la conversion, qui sont d'ailleurs d'origine géorgienne, mais qui ne sont pas écrits en géorgien, écrits en latin ou en grec, n'est-ce pas ? Parce qu'un prince royal géorgien, qui était commandant de l'armée romaine à Jérusalem, a raconter cette histoire à des chrétiens. Eh bien, il ne la nomme pas. Il dit seulement la captive. la prisonnière de guerre. Hein, il ne connaît pas le nom. Hein. Et par la suite, d'autres auteurs la nomment ou bien la chrétienne, ou bien théognoste, c'est-à-dire Dieu sait qui. On ne sait pas très bien qui elle est. Hein. Et Nino, ça ressemble à un nom enfantin, comme si on disait tata ou mémé ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un nom d'enfant. Donc, il y a un côté... Elle est terriblement austère, Nino. Mais il y a un côté maternel, vous voyez, dans ce qu'elle fait. Par exemple, sa première guérison, elle prend un enfant malade, elle le prend dans ses bras, elle le pose sur sa couverture de peau de chèvre et l'enfant est guéri. Hein. Donc, en réalité, constamment, d'un bout à l'autre du récit, il est dit que Dieu est comme une aigle mère, n'est-ce pas, qui cherche un de ses petits qui est tombé du nid. Et que, comme elle est une aigle, elle est très, très puissante. Elle peut voler vers les plus hautes montagnes du monde. À l'époque, on ne connaît pas l'Himalaya, je veux dire. Ou encore, on a oublié qu'Alexandre a découvert des montagnes plus hautes que le Caucase. Et elle va le sauver, même dans ce pays infernal, au bord des neiges et des hautes montagnes où a été prisonnier Prométhée. Donc, voilà, c'est l'amour maternel qui fait que Dieu la retrouve. Et il y a un épisode très important de la chronique qui est ce qu'on appelle, ce que les historiens de la littérature chrétienne appellent la datio legis, c'est-à-dire le don de la loi. Vous voyez, la datio legis, au départ, c'est le don des tables de la loi à Moïse sur le Sinaï. Il reçoit des tables qui sont écrites du doigt même de Dieu. N'est-ce pas ? Bien, dans l'histoire de la conversion du Kartli, un jour que Nino est endormie auprès dans un campement de bergers, elle voit arriver un homme dont on nous fait le portrait. On ne nous dit pas son nom, mais tout le monde sait, parce que tout le monde a vu des icônes, que c'est saint Paul. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que saint Paul, qui lui remet 10 commandements, qui sont la loi nouvelle. Et dans cette loi nouvelle, eh bien, tous les épisodes qui racontent l'attention particulière du Christ à l'égard des femmes, sont mentionnées les unes après. Il n'y aura plus ni homme ni femme, ni juif ni païen, ni homme libre, ni esclave. Hein, les trois choses vont ensemble. Et puis, partout où on prêchera cet évangile, on rappellera ce que cette femme a fait, etc. Je peux vous faire la liste, il y en a 10, si vous voulez. Et donc, l'accent est mis sur les femmes. Et ça reflète exactement la construction de la chronique où les femmes jouent un rôle prépondérant.
Un amour maternel qui se rapproche d'un amour chrétien, les hommes sont plus sceptiques au moment de...
Ah oui, les hommes sont beaucoup plus difficiles. Ils ne sont rattrapés que par la bande, par côté, je veux dire, à cause des femmes qui arrivent à les impliquer dans leurs manœuvres.
Comment va réagir la communauté juive de l'époque au moment de cette conversion ?
Eh bien, la communauté juive éclate. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a des Juifs qui considèrent tout à fait impie de se détacher de la loi de Moïse et de l'enseignement de leur père, et ils sont probablement majoritaires. Hein. Mais il y en a d'autres qui sont touchés par la fille du rabbin, qui s'appelle Sidonie, et par le rabbin lui-même, qui s'appelle Abiathar. Alors, c'est très difficile de dire s'il s'agit de personnages historiques. En réalité, ce qui est historique, c'est qu'il y avait une synagogue qui était là depuis 500 ans et qui était dans un quartier très particulier qu'on connaît encore aujourd'hui à Amtsreta, avec des domaines, un cimetière, un grand jardin, enfin un lieu non seulement de prière et de réunion, mais d'études, et que tout ça avait une très très grande importance, n'est-ce pas, dans le royaume géorgien. Donc, Abiathar, on ne sait pas très bien qui c'est, mais c'est un des rabbins, si je puis dire, héréditaires de cette synagogue. Et ça, qu'il y ait eu des rabbins héréditaires à une synagogue, on le sait très certainement. Et lui, il dit « j'ai été converti par ma fille ». Il dit « je suis devenu le disciple de ma fille ». Comment elle s'appelle, la fille ? Elle s'appelle Sidonie, c'est-à-dire celle de Sidon, la Sidonienne. Autrement dit, la veuve qui a reçu le prophète Élie. Il y a un rapport, parce que Hélios, un certain Hélios, descendant d'Élie, était l'ancêtre de la mère de Sidonie. Hein. Et donc, il y a la descendance d'Élie qui est dans la famille.
C'est en ça que cette chronique nous éclaire énormément sur le rôle providentiel, presque, qu'ont eu les Juifs au moment de cette...
Alors, cette évidemment, c'est une chronique... attention, il faut mettre des guillemets. C'est plutôt une prétendue tradition familiale qui a été transformée, qui prétend se transformer en chronique. Hein, mais il y a une part de légende. Hein, les apocryphes, vous savez, c'est des machines à remonter le temps. Et il faut un petit peu se méfier au point de vue littéraire.
Et d'habitude, c'est ça aussi qui est original dans cette chronique. Au moment d'une conversion, la mémoire juive est totalement effacée, oubliée, ce qui n'est pas le cas de la conversion du Cartli.
Alors, en effet, si vous voulez, on est à peu près sûr que, mettons, dans une communauté comme Carthage, pour parler de la première grande communauté chrétienne de langue latine, les Juifs étaient nombreux au départ. Sûrement très nombreux, parce qu'il y avait une liaison maritime directe entre Carthage et la Palestine, et donc c'était très normal, il y avait beaucoup de Juifs. Mais on ne voit pas un seul moment où les auteurs chrétiens avouent qu'ils aient un lien quelconque avec les Juifs. Au contraire, ils écrivent des traités contre le judaïsme, c'est-à-dire contre, non pas antisémites, hein, mais contre l'interprétation rabbinique, en quelque sorte, des Écritures. Comme si les Juifs n'avaient jamais existé à Carthage. Si vous prenez Édesse, alors là, c'est plus amusant parce qu'on a des traces du fait que toute l'histoire de la communauté primitive avant le IVe siècle, qui faisait une certaine part aux Juifs, a été réécrite par d'autres, et ainsi de suite. Les Géorgiens sont les seuls à avoir gardé intégralement, je dirais avec ses ombres et ses lumières, ce rapport avec les Juifs. Les ombres, je veux dire qu'il y a eu une brouille, ça ne s'est pas passé pacifiquement, n'est-ce pas ? Mais la lumière, c'est que le roi a interdit qu'on touche à quoi que ce soit des biens juifs, parce que, j'ouvre les guillemets, c'est là que le nom d'Éternel fut prononcé pour la première fois dans notre pays. Et donc ça, c'est une, ça a été sacralisé. Et c'est dans le testament du roi qui est à la fin de la chronique.
Est-ce qu'on peut dire que ce roi, Mirian, souhaitait garantir une forme d'harmonie entre les peuples ?
Oui, d'une certaine façon. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que peut-être le deuxième plus grand roi de la Géorgie, c'est celui qu'on appelle David le Reconstructeur, qui a vécu au XIe, XIIe siècle, et qui a libéré la Géorgie de l'islam. Hein. Et il a repris le pouvoir, si vous voulez, il a fondé un nouveau royaume, et il avait un emploi du temps très occupé. C'est-à-dire que le vendredi, il était à la mosquée, le samedi, il était à la synagogue, et le dimanche, il était à l'église. Il a fait des tribunaux multiconfessionnels, et il voulait la réunion de tous les peuples de Transcaucasie, pour la défense du pays. Il prévoyait déjà probablement des invasions graves venant de Mongolie et d'ailleurs.
Et toujours sur ce roi, Mirian, comment est-ce qu'on peut expliquer cette attitude si pacifique qu'on ne retrouve vraiment nulle part ailleurs ?
Alors là, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que peut-être, je veux dire, la communauté juive à cette époque était déjà très développée, très active au point de vue commercial et au point de vue intellectuel. Il est question d'écoles de scribes, il est question de traduction en araméen. Enfin, ils avaient un rôle reconnu. Il y a pas eu d'hostilité, aucune hostilité à l'égard des Juifs. Et au contraire, le roi dit, au moment où il est converti, il remercie le ciel d'avoir placé les Juifs sur sa route parce que lui était étranger à la loi, et maintenant il est devenu citoyen de la loi, c'est-à-dire du christianisme.
Ce texte ancien, La conversion du Cartli, qui relate tous ces événements de la conversion, c'est un texte important pour tout ce qu'il nous apprend, mais il est aussi important parce qu'il marque, ce texte, le passage de l'oral à l'écrit dans la civilisation géorgienne.
Oui, c'est-à-dire que On pourrait tenter, par exemple, et ça serait juste chronologiquement, de comparer la Géorgie ancienne à l'Égypte ancienne. Mais il y a un point qui est frappant, c'est que l'Égypte écrit qu'elle a laissé des monuments absolument énormes et impressionnants, tandis que rien de cela n'existe dans le Caucase. Et pourtant, le Caucase, c'est tout près du berceau de l'écriture, c'est-à-dire du cunéiforme, du sumérien, de toutes sortes de choses. Pourquoi ? Parce que l'écriture, au départ, c'est un instrument politique et militaire. C'est-à-dire, ça sert à noter les victoires, les impôts, je veux dire, imposés aux vaincus, les vivres, les... Autrement dit, c'est un instrument d'oppression, hein, et de domination politique. D'autre part, les dieux, eux aussi, ils tiennent une comptabilité. Ils ont des rouleaux, il y a des anges qui ont des rouleaux, ils écrivent les péchés des hommes pour leur faire payer l'addition dans l'autre monde. Donc, les choses honorables ne s'écrivent pas. Hein. Ni les prières, ni les rites, ni les histoires, ni les vies des rois. Et pourquoi est-ce que l'écriture a été tout à coup possible? Eh bien, parce que, évidemment, est arrivée une religion du livre, et il a fallu à peu près 100 ans pour qu'on se rende compte qu'on ne pouvait pas pratiquer une religion du livre sans savoir écrire dans sa propre langue.
C'est ça, la conversion arrive autour de l'an 332-334, et il faut, comme vous venez de le dire, attendre plus d'un siècle pour qu'on commence à relater.
Sur ce point, il y a un problème, si vous voulez, scientifique, c'est que, en général, les savants occidentaux pensent que tout s'est fait au 5e siècle. Les savants géorgiens sont plutôt d'avis que ça s'est fait avant. Hein. C'est-à-dire que dès le 4e siècle, il y avait des débuts d'écriture. En tout cas, on n'en a pas retrouvé une seule trace directe. Hein. Pas une inscription, rien de tel. Toutes les inscriptions qu'on connaît sont du 5e siècle.
Et cette chronique a été constituée, vous expliquez, en trois temps différents. Il y a eu trois couches successives rédactionnelles qui composent,
oui,
la conversion du
quartier. Parce que c'est une question politique. Au départ, il y avait une seule conversion, disons, Saint-Nino a fait venir de Constantinople un évêque qui a été évêque de tous les Géorgiens. Mais bien sûr, ce n'était pas tenable. Il fallait diviser en diocèses. Et si on divisait en diocèses, il fallait un chef des évêques qui était le catholicos, le patriarche des Géorgiens. Alors, le roi qui a décidé ça, qui s'appelait Vartan Gorgassal, c'est-à-dire tête de loup, il a décidé qu'il y aurait donc un catholicos qu'il a fait venir de Byzance et que l'ancien évêque serait simplement prélat de la région. Et pour justifier cette organisation, il a fait écrire par un diacre nommé Grigol, probablement vers 484, une toute petite histoire qui raconte l'arrivée de Saint-Nino, enfin la vie ascétique de Saint-Nino, la construction des églises, etc. Ça, c'est première couche.
484, c'est 484. La première. La seconde arrive autour
Alors,
de 635.
Alors, la seconde couche, c'est que aussitôt que les Géorgiens sont devenus chrétiens, bien que l'Empire romain soit chrétien, ils ont des ennuis avec les Perses. Donc, finalement, il y a un personnage très important qui est Héraclius, l'empereur Héraclius. C'est pour ça que le nom d'Héraclius est très, très populaire dans le Caucase, en tout cas en Géorgie. Et Héraclius, il tue tous les marges et il démolit tous les hôtels du feu. À ce moment-là, donc, on écrit une chronique, si vous voulez, de la victoire d'Héraclius et du retour de la vraie croix. Ça, c'est la deuxième couche rédactionnelle de notre chronique de la conversion du Quartli.
Et puis,
la troisième couche rédactionnelle, c'est difficile à expliquer. C'est-à-dire que, si vous voulez, cette première histoire qui a été probablement terminée vers 635, avant l'arrivée des Arabes, eh bien, elle est devenue comme une icône, tout à fait sacrée. On n'a pas le droit d'ajouter ni de retrancher. Mais comme on continue de raconter des histoires encore sur Saint-Nino et sur le roi, etc., etc., on décide de réunir tous les chapitres, comme ça. C'est un petit peu comme si vous aviez une icône avec le portrait du saint, Saint-Nino et Saint-Myriane au milieu, et puis tout autour, les épisodes de leur vie. Hein, les épisodes de leur vie, comme sur certaines icônes. Ça s'est fait probablement au début du 9e siècle. Et au lieu de changer le récit, puisqu'il était intouchable, on a imaginé qu'on allait interviewer des gens. On va interviewer trois femmes et trois hommes, et qui vont dire ce qu'ils ont vu. Et donc, cette partie supplémentaire n'est pas un récit chronologique, c'est une série d'interviews. Alors ça, c'était très difficile à assimiler pour la suite. Et il y a eu dans la suite, c'est-à-dire au Xe siècle, au XIe siècle, des gens qui ont voulu mettre de l'ordre et raconter tout par ordre.
Nous sommes alors au IXe siècle, c'est à ce moment-là que la forme définitive de la conversion du Kartli arrive.
Et oui, c'est ça, et alors à ce moment-là, elle n'est pas plus tôt formée que se produit un événement très important, c'est l'unification du royaume de Géorgie, l'installation d'un roi qui s'appelait Bagrat et qui chasse totalement les musulmans du royaume et qui proclame l'indépendance de la totalité de la Géorgie, à l'ouest, l'ancienne Colchide, et à l'est, l'ancienne Ibérie. Et ce roi fait constituer un nouveau corpus d'histoire. Et donc, ce corpus d'histoire, c'est ce qu'on connaît de mieux sur l'histoire de la Géorgie, c'est complet. Ça a été édité au XVIIe siècle par un des derniers rois Bagrationi, n'est-ce pas, qui s'appelait Vartang. Ça a été traduit au XIXe siècle, par un grand savant français qui était en fait membre de l'Académie de Saint-Pétersbourg, qui s'appelait, c'était un monsieur, mais il s'appelait Marie-Félicité Brosset. Quelquefois, il se faisait appeler Xavier pour qu'on ne se trompe pas sur son identité. Et au moment où Brosset a terminé, dans les années 50, on a commencé à trouver des manuscrits anciens, de l'état ancien du texte, qui est la conversion du Kartli.
Et donc là, je vous propose de faire un saut dans le temps du 9e siècle au 19e siècle, puisque c'est à cette époque que sont découverts les premiers manuscrits, en 1888, exactement.
Oui. C'est le... Et puis 1903.
Et puis 1903.
Alors, ces premiers manuscrits sont d'époques différentes, et donc ils racontent la même histoire, mais avec beaucoup, beaucoup de variantes.
Ça pose problème.
Donc, ça pose problème. Donc l'éditeur, le savant géorgien, qui s'appelait Abouladze, les édite en colonnes. Il met à gauche, disons, le plus ancien, qui est du Xe siècle, et à droite, le plus récent, qui est du XIVe siècle. Hein. Et puis, il ne tranche pas, et il a raison. Il ne peut pas raisonnablement trancher d'une façon définitive. Et il se produit quelque chose d'inattendu. Au Sinaï, je ne peux pas vous expliquer exactement pourquoi, sur la muraille de Justinien, il y a une petite église qui s'appelle Saint-Georges. Et un jour, un incendie, c'était en 75 ou 76, éclate sur cette muraille. Et quand on éteint l'incendie et qu'on déblaye les décombres, on découvre un tombeau de livres. Pourquoi un tombeau ? Parce que c'était des livres saints, mais ils étaient déchirés. On ne pouvait plus s'en servir, ils étaient écrits dans des langues incompréhensibles. Donc, on allait les mettre de côté, mais pas les détruire, ça aurait été mal. Et donc, on les a enterrés pieusement en dessous de l'église Saint-Georges. Probablement 1738. Et là, il a fallu l'incendie survenu en 1975-76 pour que ça soit trouvé. Alors au début, personne n'en a rien dit. Personne n'en a rien dit parce que les moines se disaient « Le Sinaï est occupé par l'État d'Israël. Si on dit quoi que ce soit, tous ces manuscrits vont être emportés à Jérusalem et on ne pourra plus rien faire. » Donc ils ont...
Rien fait.
Silence. Et puis quand Anwar al-Sadat a conclu des accords avec Israël et donc a récupéré le Sinaï. Alors à ce moment-là, ils se sont dit, le droit musulman va s'appliquer, on est des wakof, on est des propriétés, des fondations religieuses, donc on ne peut rien nous faire de mal. Et ils ont avoué. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que parmi les nombreuses langues, eh bien, il y avait du géorgien. Et alors après, moi, à ce moment-là, je faisais un stage à l'Institut des manuscrits.
Donc là, nous sommes dans les années 80, 90,
80. En 81, je faisais un stage à l'Institut des manuscrits à Tbilissi. Je voyais tous les jours les délégués grecs rentrer dans le bureau de la directrice et ressortir sans accord. Et puis, le nouveau directeur était un de mes amis parce qu'il était professeur de géorgien. La directrice est partie à la retraite. Le nouveau directeur, qui s'appelait Zaza Alexidze, était un professeur d'arménien à l'université, donc je le connaissais bien. Et c'est lui qui est devenu directeur. Et lui, il a négocié et il a eu la chance de réussir. Et donc, en 1990, pour la première fois, il y a eu une expédition de savants géorgiens qui sont allés pour inventorier, voir les manuscrits, photographier autant qu'ils pouvaient. Mais 90, c'était les derniers mois, je pourrais dire les dernières semaines de l'Union soviétique. Donc, quand ils sont rentrés en Géorgie, il n'y avait plus d'Union soviétique. Il y avait plus, il y avait même la guerre civile qui a éclaté très peu de temps après. Alors, on s'était vu à Paris et on avait convenu qu'on allait faire quelque chose pour que ces textes soient publiés à l'étranger. On pensait justement en Belgique, dans la collection où ils sont publiés actuellement. Et puis, il s'est trouvé qu'on a découvert, en dessous de certains manuscrits géorgiens, une langue du Caucase inconnue, qui s'appelle l'albanien, qui est la langue du nord de l'Azerbaïdjan dans l'Antiquité. Extraordinaire. Ça a été prioritaire. Et donc, ça a retardé nos projets de publication. Et quand on s'est remis à ces projets de publication en 1998, eh bien, il y avait beaucoup de choses à recommencer, heureusement. Et puis, mon ami Alexis Dzé est tombé malade, et donc je me suis retrouvé tout seul.
En tout cas, cette découverte a permis un renouvellement précieux de la connaissance sur ce sujet-là. Ces manuscrits sur lesquels vous avez travaillé dans les années 90 ont permis de réconcilier ces deux premiers manuscrits retrouvés au 19e siècle.
D'essayer de tenter un texte synthétique. Alors, ça sera probablement refait par des savants géorgiens d'une façon plus judicieuse que celle que j'ai proposée. Mais déjà, on entrevoit la possibilité d'établir la physionomie réaliste de cette chronique au moment où elle était complétée au début du 9e siècle.
Donc là, ça fait combien de temps que vous travaillez à peu près sur le sujet?
Ça a mis des années, je veux dire. Entre 1990, vous voyez, et 1991, et jusqu'à... Mais il y a tant de choses qui se sont passées entre les deux, ça n'a pas été possible de travailler d'un seul coup.
Et aujourd'hui, ce sera ma dernière question. Que reste-t-il à découvrir de cette chronique? Quels sont les points de mystère à déchiffrer?
Oh, il y a plein de choses. Je veux dire, il y a vraiment plein de choses. C'est-à-dire que l'archéologie doit permettre, par exemple, de vérifier certains détails de l'apocryphe ou de l'histoire un peu légendaire juive qui est à l'intérieur. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça va plutôt dans le sens d'une confirmation, c'est-à-dire d'indices matériels qui vont nous confirmer. Il y a plein de choses sur la succession des rois, des catholicos, plein de bénéfices chronologiques à attendre de cette chronique. Je n'ai pas pu, naturellement, tout résoudre d'un seul coup. C'est très fort.
Mais le travail continue encore aujourd'hui?
Oui, en tout cas, il continue sûrement à l'Institut des manuscrits, au Centre national des manuscrits à Tbilissi.
Un grand merci Jean-Pierre Mahé pour cette introduction au sujet. Pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, nous les invitons à lire en ligne l'édition critique de cette chronique, La conversion du Kartli, disponible en deux volumes, en langue géorgienne et avec la traduction française que vous avez faite.
Oui.
Et c'est à découvrir aux éditions Peters. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup.
Canal Académie.